France Inter.
Le matrimoine. Frida Kahlo, Marie Curie, Simone Veil. Il y en a des centaines qui ont été en plan scientifique, plan politique, plan culturel.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un 132e numéro déjà de Zoom Zoom Zen, un chiffre qui est aussi l'occasion pour moi de répondre à une polémique qui enfle sur les réseaux sociaux et selon laquelle, je cite, grisé par un article de Télérama lui octroyant cité d'un coup, Mathieu Noël aurait décidé de ne plus tourner une paille à l'envers jusqu'à la fin de saison. Une rumeur aussi choquante qu'infondée, hein, au contraire je peux vous assurer que l'équipe reste très motivée et portée, il faut le dire, par le volontarisme inaltérable de notre rédacteur en chef Cyril Lacarrière qui nous a tous réunis après l'article de Télérama. L'as du coaching, comme on le surnomme à France 5, où il a fait un passage aussi éclair que marquant, a eu ses mots très forts. Ses mots, aussi,
certainement.
Il a eu ses mots très forts, je cite, et je précise que là, c'est vrai. Bon, alors les gars, c'est la dernière semaine des sondages Médiamétrie, alors on met un gros coup de collier. Ah bon, parce qu'après, ça veut dire qu'après la vague de sondage, on peut se relâcher, ai-je osé? Et là, Cyril n'a pas démérité de son surnom d'as du coaching, parce qu'il a dit, c'est toujours vrai, ah non, après, on renoue juste avec le rythme de croisière de l'excellence.
Eh ouais, mon biquet.
Ainsi a parlé le Captain Iglo du journalisme. Moussaillon à vos postes, souk et ferme, cap sur l'excellence. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
Alors, on se relâche pas, mais un peu quand même, vu que j'ai oublié de donner le thème du jour. Pas des moindres pourtant, puisque cet après-midi, Zoom Zoom Zen est plus qu'une émission, une vengeance. Même si ça change un peu depuis quand même quelques dizaines d'années, voilà 2000 ans que les femmes créent, inventent, parfois révolutionnent, et que tout le monde s'en fout. Zoom aujourd'hui sur le matrimoine, tout ce que le génie féminin a donné au monde, mais qu'on a préféré gommer, notamment pour ne pas faire trop d'ombre au bonhomme. Comment s'est imposée cette idée absurde que le génie serait plus masculin que féminin? Pourquoi a-t-on sciemment écarté les femmes des activités de création? Comment réhabiliter ces injustes oubliés de l'histoire? On va en parler avec nos invités. Bonjour Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes parfaitement coordonnées et en stéréo. C'est magnifique, c'est du grand art. Vous êtes les co-autrices de ce livre « Donne-moi des ailes », E-L-L-E-S, aux éditions Jouvence. « Donne-moi des ailes », c'est aussi un podcast que vous présentez toutes les deux. Vous y recevez une personnalité qui doit mettre en lumière deux femmes qui ont influencé sa vie. Caroline, vous êtes diplômée en sciences politiques, en aide humanitaire internationale et en études de genre. Je ne me trompe pas, c'est bien ça?
C'est ça.
Et Alexandra Huguetto, de votre côté, vous êtes philosophe, sociologue et coach.
Voilà.
Un joli CV aussi. Alors, on va voir ensemble comment les femmes ont été largement occultées dans l'histoire de l'art, notamment, des sciences aussi. Le temps de vous présenter deux journalistes à qui je dois au moins la moitié de mes thés dans Télérama. À ma droite... Soyons généreux. À ma droite, elle est encore. Toi, je t'en revanche, rien. Elle est encore sur un petit nuage. Il faut dire que c'est la première fois qu'un magazine qui plus est aussi chic que Télérama utilise pour la décrire le mot finesse. Et c'est vrai que pourtant, quand on la connaît bien, c'est le premier mot qui vient à l'esprit. Bonjour Manon Mariani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Alors, chaque après-midi, Manon, vous n'analysez pas pour nous les réseaux sociaux, vous les analysez avec finesse.
Avec finesse.
Et aujourd'hui.
Je me suis intéressée à des hashtags très relayés sur Twitter. Des milliers de personnes demandent à Netflix de sauver leur série préférée annulée par la plateforme, des séries qui ont toutes un point commun. Je vous explique lequel dans ma veille sanitaire.
À ma gauche, lui aussi boit du petit lait, néanmoins coupé au calva, depuis l'article dans Télérama, le décrivant comme le feu follet de cette émission. Article dans lequel il a appris également qu'il était l'auteur de micro-trottoirs éclairants. Compliment qu'il accepte volontiers, même si l'essentiel de son boulot, soudoyer les élèves du cours Florent pour jouer des passants crédibles, n'a pas été mentionné. C'est dommage, c'est beaucoup de boulot. Bonjour Quentin.
Sympa. Bonjour Mathieu. Ça ferait tomber les cheveux qui reste d'adresser une gentillesse sur mon travail.
Oh mon pauvre vieux.
Bien dit Quentin.
Bien dit Quentin, lui dit bien dit Quentin, bah, bravo. Alors non. Quentin, racontez-nous quand même le matrimoine, est-ce que c'est une cause qui fait réagir les
oui,
gens
là? Bah, c'est un mot qui laisse pas de marbre, il intrigue plus qu'y faire culer les passants. Quels héritages féminins avons-nous en commun? La transmission d'une mère dans l'éducation, est-ce que c'est aussi du matrimoine? On va en discuter avec vous dans la prochaine demi-heure, complètement à la rue, garantie 100% authentique, sans comédien, par Télérama.
Bien sûr. Vers 16h30, le feu follet et la finesse s'affronteront en duel fratricide sur notre thème du matrimoine. Petit avant-goût, comment s'appelle la sœur de Mozart?
Il avait pas de sœur.
C'est pas Marlène. Du tout, Marlène, bien sûr. Alors, Nanerle, elle était surnommée, c'était Mariana, bon, super. Enfin,
Nanerle.
Et même un livre là-dessus, Mozart était une femme. Enfin, bref, on verra beaucoup de choses à rattraper, visiblement. En fin d'émission, nous aurons la chance de retrouver celui dont on découvrira peut-être un jour que c'est en fait sa femme, Jocelyne Tranier, qui écrit ses chroniques. Benjamin Tranier en récoltera une fois de plus seul les lauriers. Alexandra et Caroline, avant de voir comment le matrimoine a été sous-évalué dans le passé, comment déjà expliquer que l'héritage des femmes soit encore si négligé aujourd'hui?
Ben, on paye le fait que depuis des siècles, on ne parle pas beaucoup des femmes et on cherche même à invisibiliser ce qu'elles ont produit. Alors même si aujourd'hui ça va mieux, ce n'est pas si facile de récupérer les wagons et de faire marche arrière.
On a pris trop de retard. Lui, il a toujours mis femme et homme sur un parfait pied d'égalité, comme le prouve sa réaction le jour où je lui ai présenté Manon.
Je suis ravi d'avoir une secrétaire aussi jolie.
Alors évidemment, par la suite, quand il a compris qu'elle ne serait pas sa secrétaire, il a un peu déchanté.
La secrétaire de qui alors?
Bon, bref, Cyril est un homme de son temps. Bonjour la carrière.
Bonjour Noël.
Alors chaque jour, c'est vous qui êtes en charge de poser les bases. Alors le matrimoine, d'où ça sort?
Eh bien, figurez-vous Mathieu, que c'est un mot qui a une histoire. La chercheuse Aurore Evin rappelle que non seulement matrimoine n'est pas un néologisme, mais c'est un mot avec une histoire politique. Le saviez-vous? Au Moyen-Âge, lorsqu'un couple se marie, on déclare à la fois le patrimoine, les biens hérités du père, et le matrimoine, les biens hérités de la mère. Et oui. Mais, évidemment, ça ne va pas durer. Comme le rappelle la chercheuse, il reste les agences matrimoniales et les journées du patrimoine. D'un côté, on laisse aux femmes la vie sentimentale, en gros, de s'occuper de la maison. De l'autre, le truc sérieux, les bâtiments de la République. Ça, c'est pour les mecs. Division d'un autre temps, mais alors? Si au lieu des journées du patrimoine, on parlait des journées du matrimoine. Vous savez quoi? Cette idée a inspiré un humoriste. C'était il y a 5 ans. À l'époque, le type se prend un peu pour le roi du monde. Lui aussi a bossé sur France 5, plus longtemps que moi, c'est vrai. Et son passage aussi a été remarqué, surtout pour son art consommé des relations humaines. Histoire vraie, il avait interdit qu'on vienne le voir dans son bureau pour ne pas le déranger. Fallait pas le perturber, le Molière de la télé, hein, mon Mathieu? En plus de faire de la télé à l'époque, il cumule, car il a des charges, donc il bosse sur une radio de droite. Et là-bas, se foutre des idées des écolos, c'est bien vu. Tu vois venir. Surtout avec ses copains militants du RPR, ah ça faisait son malin avec Vincent Hervouette et Patrick Cohen. Attention Caroline et Alexandra, ça va rouler des mécaniques. Alors Mathieu, vous en pensiez quoi à l'époque du matrimoine?
Déjà que certains soulignaient le côté un peu lourdingue de l'écriture inclusive, là, si on doit permuter les pas et les mâts, on n'est pas sorti de l'auberge Patrick, ou plutôt, devrais-je dire, Matrice. Personnellement, même si mon métier consiste à faire preuve d'impertinence, je me vois quand même assez mal arriver au bureau le matin et vous taper dans le dos en vous disant comment ça va Matrice, hein? Parce que si on va par là, les patriotes sont aussi des matriotes, et comme l'égalité doit aller dans les deux sens, le mariage n'est-il pas aussi un pariage? Bref, Matrice, avec tout ça, on n'est pas dans la perde.
Ah ça, on s'en fait rire si on n'en va pas.
Ça me fait surtout des droits à Sam, donc je vous remercie.
Avec plaisir.
Effectivement,
ça réussit.
Merci.
Sur YouTube, c'est 17 000 vues. Je vous livre 2 commentaires, celui de Laure, pathétique, pauvre chroniqueur, et celui de Philippe. Celle-ci, elle va devenir culte. Vous ne croyez pas si bien dire, mon cher Philippe. Surtout que maintenant, il est sur une radio de gauche et qu'il doit faire semblant d'être copain avec Charline Van Den Ecker.
Évidemment, je ne tiendrai plus jamais ce type de propos, mais je m'adapte. Moi, je suis le caméléon de l'impro. Que j'aille demain sur Radio Courtoisie. Tout est possible, tout est possible. Merci quand même, Cyril, pour cet éclairage partiel sur notre sujet du jour. Les femmes artistes ont donc dû faire face à 2 obstacles majeurs, l'empêchement des carrières et l'effacement des mémoires. Alexandra, Caroline, expliquez-nous comment cette double peine s'est inscrite dans nos comportements et dans nos sociétés. Parce qu'il y a donc un double phénomène. Caroline, si vous voulez y aller.
Alexandra. Ben, oui, et dans notre société et dans l'histoire aussi, tout ça, ça commence à la Renaissance. À la Renaissance, on va se dire que le modèle idéal, c'est le modèle italien. Et avec ce modèle, on va prendre son modèle social. Et dans le modèle social italien, le pater familias, il est tout puissant. Et les femmes n'ont pas de place. Donc on va gommer. Les femmes ont pourtant déjà exercé des métiers. Les noms de métiers sont même féminisés. Mais on va gommer tout ça en se disant non, non, non. On remet les femmes à leur place. Et on va empiler les politiques misogynes les unes après les autres. Et ça va se poursuivre de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui.
Vous écoutez, c'est presque situé géographiquement. C'est très latin. Ça vient d'Italie.
Oui,
Si c'était une culture nordique qui avait pris le dessus, peut-être qu'on serait, il y aurait le matrimoine. On ferait pas cette émission aujourd'hui, en fait.
Allez savoir. En tout cas, le champ de nos recherches s'est concentré sur l'Europe occidentale. Et ce modèle italien était prédominant dès la Renaissance.
Mais pourtant, ce différentiel qu'il y a entre patrimoine et qui occulte complètement le matrimoine, on le retrouve ailleurs dans le monde aujourd'hui. Quand même. Il n'y a pas que chez nous.
Non, malheureusement, il n'y a pas que chez nous. Donc, comme on a voulu faire quelque chose de sérieux et que nous ne sommes pas historiennes, ni l'une ni l'autre, on a réduit le champ de nos recherches à l'Europe occidentale, histoire de pouvoir déjà brasser ces milliers de pages de documentation. Mais malheureusement, l'Europe n'est pas du tout singulière sur le sujet.
On a du mal à croire quand même, je reviens sur ce que disait Cyril tout à l'heure, la partie intéressante de la chronique de Cyril, sur le fait qu'au Moyen-Âge, on distinguait patrimoine et matrimoine et qu'en fait, ça soit perdu. Presque, ils étaient presque plus avancés que nous à l'époque, Caroline.
Oui, en fait, on a toujours l'impression que le siècle des Lumières, par exemple, a été le siècle d'une grande liberté. Et au fond, ça, on comprend qu'en fait, c'était une grande liberté, mais dans un seul sens, liberté dans un... Ouais, c'est ça. Et l'histoire du mot matrimoine, en fait, c'est l'histoire des femmes, en fait. C'est l'histoire d'une disparition. Au Moyen-Âge, les femmes, elles avaient vraiment beaucoup de droits, autant que les hommes, à exercer des métiers. Et ça s'est vraiment réduit. Au fil de l'histoire, il y a eu vraiment plusieurs vagues comme ça, où ça revenait à chaque fois. Donc voilà, même si aujourd'hui, on peut dire que ça va mieux, on n'est jamais à l'abri que ça.
D'un backlash, oui. Comme on dit aujourd'hui. Attention. Alors, comme nous défendons aujourd'hui le matrimoine, j'ai essayé d'imposer dans la playlist une œuvre pour clavecin de Nannerl, l'injustement oubliée sœur de Mozart. Ce à quoi Cyril Lacarrière a opposé un veto, je le cite, la sœur à Mozart, c'est comme les légumes oubliés, si on les a oubliés, il y a une raison. Tant pis pour elle, tant pis pour l'histoire, Cyril. Vite, écoutons au moins Janis Joplin avant que Cyril ne mette son veto. Move over sur Inter.
Yeah.
France Inter.
Caroline Le Cire, Alexandra Huguetto, autrice et podcasteuse, sont nos invités cet après-midi pour sauver le matrimoine. Est-ce qu'on peut dire, sans trop prendre de risques, que l'histoire, et en particulier l'histoire de l'art, sont sexistes? L'histoire, c'est en fait l'histoire du male gaze, comme on dit aujourd'hui.
Oui, on peut sans trop de risques dire que c'est sexiste, en effet. Mm-hmm. Il y a vraiment... En fait, ces disciplines, elles ont été créées dans un contexte qui était sexiste et hyper misogyne, hein, donc dans le courant du 19e siècle. Et donc, en fait, c'est le reflet d'une époque. Il y a eu vraiment beaucoup de tentatives depuis, mais vraiment, la plupart des encyclopédies qui retraçaient l'histoire de l'art, elles étaient, il n'y avait même aucune œuvre signée par une femme. Mm-hmm. Et alors que quand on cherche, vous en parliez tout à l'heure, quand on cherche, il y en a des milliers. Donc, ce n'est pas question qu'elles n'ont pas créé, c'est qu'en fait, on les a effacées. Certaines qui ont eu du succès à leur époque, elles ont vraiment été effacées.
Bien sûr. Et ce qui est important de comprendre aussi, je réfléchis à haute voix, mais c'est qu'avant, l'art était souvent vu comme un divertissement, c'était pas sacralisé comme ça l'a été au 19e, et c'est en fait tout s'est figé au moment où on a sacralisé les arts majeurs, la composition classique, et c'est donc là, ça tout s'est figé à un moment où la société était complètement machiste, et donc on a dit le génie c'est forcément masculin.
Oui, et ça avait commencé quand même à la Renaissance avec l'édiction de certaines normes et la création de ces institutions que sont les académies. Donc il y a eu l'académie pour le langage, mais aussi il y a eu les académies artistiques.
Et ça, c'était réservé aux hommes ?
Réservé aux hommes, les femmes en étaient interdites. Il faut quand même imaginer que dans les ateliers de Tintoret et de Véronèse, leurs filles étaient des peintresses et qu'elles produisaient des œuvres qu'elles n'avaient pas le droit de signer.
Ah, en plus, il y avait en plus comme ça une duplicité, une mauvaise foi. Énorme, parce que les femmes étaient là, en fait.
On s'appropriait l'œuvre.
Les hommes. Hommes.
Les œuvres des femmes.
Oui.
On signait, on arrivait, hop, Quentin lui, clac, une belle sculpture. Dans son rapport de 2022, l'Observatoire de l'égalité entre les femmes et les hommes rappelait que les œuvres des femmes professionnelles de la culture restent moins programmées que celles des hommes, qu'elles accèdent moins souvent qu'eux à la consécration artistique. Elles sont ainsi peu primées dans les rencontres emblématiques du cinéma, de la musique, du théâtre, de l'architecture. Deux femmes seulement, il faut le rappeler, ont reçu la Palme d'Or à Cannes. L'an dernier, tous les nommés au César de la meilleure réalisation étaient des hommes. Il y a donc un problème à la fois d'héritage, mais aussi un problème de présent, hein, visiblement.
Ah oui ?
Oui, tout à fait. Ben, si on prend l'exemple, Caroline, par exemple, de la dernière cérémonie des Magritte en Belgique, qui donc, est un peu l'équivalent des Césars chez vous, il y a eu un petit clip pour mettre à l'honneur tous les métiers invisibles du cinéma, dans lesquels il y a beaucoup de femmes. Et en fait, tous les noms, toutes les dénominations de métiers étaient au masculin.
Super.
Donc c'était censé être quelque chose qui mettait en valeur. Et en fait, c'est de nouveau une petite anecdote, mais en fait, c'est pas du tout anecdotique. C'est qu'au fait, beaucoup de gens ont l'impression, même sont énervés par ce sujet, mais en fait, ça change tellement lentement. Et que dans certains milieux, il faut vraiment que les gens prennent conscience que vraiment, quand vous dites ces chiffres-là, c'est vraiment... les femmes représentent quand même la moitié de la population et cet héritage, il est vraiment amputé, l'héritage du passé, mais aussi toutes les femmes qui créent en ce moment.
Mais pour vous, c'est important de féminiser tous les mots comme matrimoine, l'émission qu'on fait aujourd'hui.
Mais oui, parce que le langage est performatif et parce qu'on... C'est de la symbolique et la symbolique, c'est très important pour la construction identitaire personnelle, mais aussi pour la construction identitaire culturelle. Et c'est vraiment important de pouvoir féminiser les noms, d'abord parce que ça va offrir des supports de représentation pour les filles, pour les jeunes filles, pour les femmes, mais aussi parce que ça va rééquilibrer un récit. Et on se raconte quand même, nous sommes des êtres humains qui vivons beaucoup par ce que nous disons de nous-mêmes.
Pardon, j'aimerais défendre ce jeune chroniqueur qu'on entendait tout à l'heure sur une vieille radio de droite il y a très longtemps, parce que je me souviens de ce qu'il avait dû vouloir dire ce jour-là. Ça paraissait bizarre, je parle de moi. Ce que je voulais dire, est-ce que peut-être certains peuvent opposer à ça, c'est de dire que le mot n'est pas important. Évidemment qu'on défend un patrimoine, on a envie que les femmes soient pleinement représentées dans le patrimoine, c'est juste que changer tous les mots ne va pas solutionner le problème. Il faut qu'effectivement les femmes soient reconnues, ça c'est la base de tout. Est-ce que en imposant le mot patrimoine dans un premier temps, c'est dans ce sens-là qu'il faut faire les choses. Est-ce qu'il ne faut pas dire juste que les femmes sont aussi géniales que les hommes, tout simplement?
Il faut dire ça aussi, mais je pense qu'en fait, la question, c'est même pas qu'on veut féminiser les mots, c'est que le mot matrimoine, il existait.
Oui.
C'est l'histoire qu'on l'a effacé. Il est plus dans le dictionnaire.
Ça, vous avez tout à fait raison. Donc, tout à fait. Donc ça sape complètement mon argument. C'est un mot qui existait.
Il existait juste, comme peintresse, comme autrice. Donc c'est pas du néo-féminisme, c'est juste de remettre.
Oui, pardon, si je vais plus loin aussi, l'autre problème qu'on retrouve une fois qu'on a réinstauré le mot matrimoine, c'est qu'on ferait une différence entre ce qui relève du matrimoine et du patrimoine, comme si le génie féminin n'était pas la même chose que le génie masculin. Et qu'il y avait un génie proprement féminin et donc un génie proprement masculin. Et donc on peut retomber sur une...
Mais ça, mais tout à fait, mais vous prêchez à des convaincus. Oui, on adorerait que notre livre ne serve à rien et que notre podcast ne serve plus à rien. Mais en attendant, c'est plutôt bien de parler du matrimoine et de mettre en valeur l'héritage culturel au féminin. Et quand ça sera équilibré, inventons un mot nouveau qui représente l'un et l'autre.
Et d'ici là, ferme ta gueule, Mathieu Noël. Le message est passé, vous avez complètement raison. Détail amusant, on en parlait tout à l'heure, Maria Anna, la sœur de Mozart, composait et se produisait à ses côtés jusqu'à ses 16 ans, où elle a été éloignée de la musique pour se préparer à son mariage. Ça, je pense que c'est quand même un des exemples les plus beaux de l'histoire de la musique. On l'a mise de côté, tout simplement. Et ça, c'est le sort, on imagine, le nombre de sœurs de Mozart qu'il y a dû avoir un peu partout.
Oui, c'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de se rendre compte qu'en fait, ça n'a rien, c'est pas le père de Mozart en particulier, c'était vraiment une époque qui était hyper misogyne. Oui. Alors, on a quelques contre-exemples, hein, donc on a notamment une astronome qui a été quelque part aussi sauvée par son père, elle était aussi destinée à être mariée, et puis elle avait été atteinte de la variole, et donc son père s'est dit, ok, on va la destiner à une carrière scientifique. Et donc, il y a des contre-exemples comme ça,
mais par contre,
c'était culturel, vraiment, et donc, nous, ce qu'on veut, c'est que la culture, elle change.
Et on peut dire aussi que récemment, il y a quand même la photographe Viviane Maier qui a été mise à l'honneur à Paris. Ça arrive aujourd'hui quand même, on met en plus des coups de projecteur.
Mais de plus en plus, Georgia O'Keeffe, Rosa Bonheur, enfin, il y a vraiment beaucoup d'expositions aujourd'hui qui présentent les œuvres des femmes et qui les mettent à l'honneur.
Mais quand même, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'on parle toujours de femmes artistes. On ne va jamais dire l'expo de l'homme artiste Picasso.
C'est ridicule, c'est ça qui est ridicule. Ouais. L'artiste, tout simplement. Avec un grand
A.
Alors, il faut être juste, il n'y a pas que les photographes femmes qui ont été effacées de l'histoire. Certains photographes hommes, dotés pourtant d'un canon 200D, ont vu également leur travail bafoué. Ainsi, le mot humiliation n'est pas trop fort pour exprimer ce qu'a ressenti Quentin, alias Tonton Caméra, quand, après des mois à chercher le bon gimmick pour immortaliser chaque enregistrement de Zoom Zoom Zen, il a assisté, démuni, à la prise de pouvoir artistique de Manon, qui, après avoir réfléchi au truc 30 secondes, a eu l'idée de faire juste un grand angle vertical avec son iPhone. La détresse de Quentin face à l'enthousiasme unanime qu'a suscité cette trouvaille, alors qu'il était là comme un con avec son Canon 200D, nous rappelle que parfois des hommes aussi peuvent se sentir invisibilisés. Allez, on oublie tout ça, Quentin, les rencontres d'art, vous oubliez, on se contente sur ce qui vous reste, le micro-trottoir.
Et ça me va très bien, ça me va très bien. Vous savez pourquoi ? Parce que les belles rencontres se font dehors.
Ah, bien sûr.
Pas dans la moquerie d'un open space étriqué de la maison de la radio avec à sa tête deux quadras mal alpha, qu'on a bien deviné. Qui a bien y réfléchi, Mathieu, ne mérite même pas de briller dans l'objectif de mon canon.
Oh mon dieu !
C'est donc avec joie que je cède ma place à une femme et à Manon. Bon courage à elle.
Merci, Quentin.
Allez, pour parler matrimoine, j'ai croisé la route d'Isabelle qui était sur le chemin de son cours du soir en couture.
Le matrimoine. Alors, je pense que ça se réfère au patrimoine. C'est peut-être ce que les femmes peuvent transmettre à leurs descendants, je ne sais pas, enfin à leurs héritiers, le matrimoine.
Ben, ça change de ce côté-là déjà.
Oui, probablement, puisque les femmes travaillent. Donc, effectivement, elles ont des revenus. Quand on se marie, c'est plus forcément sous le régime de la communauté. Il y a beaucoup de séparation. Donc, oui, je pense qu'elles transmettent effectivement davantage.
Outre l'aspect financier ou immobilier, je lui parle de façon plus large du mot. Peut-elle me citer des noms de femmes qui font partie de notre matrimoine commun ?
Frida Kahlo, Marie Curie, Simone Veil, y en a des centaines. Celle qui a accompagné Rodin, qui lui a volé ses œuvres aussi. Enfin,
Camille Claudel.
Camille Claudel, exactement. Voilà. Au plan scientifique, plan politique, plan culturel. Sauf que leur nom ne figure pas souvent dans les publications, en fait, dans les parutions. C'était les hommes qui possédaient les ateliers qui les revendiquaient.
Mais alors, est-ce que notre époque dite plus féministe fait évoluer les choses ?
On est dans cette tendance-là, dans cette mouvance. Moi, par exemple, mes filles savent la valeur qu'elles ont réellement. On les y a encouragées, mon mari et moi. Elles savent quelle place elles ont, quelle place elles peuvent avoir. Elles vont le revendiquer très fort. Ça, c'est sûr. Alors, est-ce que c'est ça aussi le matrimoine ? C'est transmettre aussi ce genre de valeur.
Alors qu'il scrute le patrimoine à vendre d'une agence immobilière qui affiche des annonces à 7 chiffres, je propose à Eric de lui faire lire un mot qui a existé au Moyen-Âge et qui a disparu au fil du temps.
Le matrimoine, oui, bah, ça a suivi l'évolution de la société patriarcale, en fait. Donc
on a supprimé les mots, quoi.
Ils sont tombés en désuétude. On s'est bien gardé de les employer couramment. Quand on parle des lois sur la retraite, on s'aperçoit qui a été oublié. Les femmes, je veux dire, de manière générale, elles peinent quand même à trouver leur place.
Je lui demande de me citer des noms de grandes femmes qui ont marqué notre histoire.
C'est vrai qu'à part Marie Curie, en France, on peine à trouver des femmes scientifiques. Il faudrait les chercher, mais je pense que si on cherche, on va trouver. L'histoire a été majoritairement réécrite par les hommes. On commence à peine à s'en rendre compte et à chercher à réparer certains oublis. Donc c'est là qu'on fait rentrer au Panthéon toutes les femmes qu'on trouve. Si on laissait de côté le Panthéon, qu'on se gardait simplement d'ouvrir les dictionnaires et les encyclopédies à celles qui sont un peu disparues de l'histoire, je pense que les femmes retrouveraient une place sans doute plus juste.
Alors qu'elle fonçait à vélo vers la fac à toute berzingue. Oui, j'avais envie d'employer le mot
de votre
à toute berzingue sur France Inter depuis longtemps. J'arrête cette jeune femme brune, veste en jean, vert bouteille, cheveux courts bouclés, bonjour.
Bonjour.
Quel est votre prénom ?
Juliette, j'ai 22 ans.
Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie ?
Moi, je suis étudiante en anthropologie, je suis en dernière année de master. Je pars pour rédiger mon mémoire, là.
Que pense cette jeune étudiante de notre mot du jour ?
Le matrimoine. Déjà, j'ai jamais entendu ce mot-là. Ça vient forcément de patrimoine, mais c'est féminisé. Mais il y a plein de termes comme ça qui ont été avancés, des termes féminisés et qui se disent plus aujourd'hui. Qui reviennent petit à petit comme écrivaine. Bah, la langue, ça définit complètement la culture dans laquelle on est. Elle évolue avec qui on est.
Les mots ont un pouvoir, quoi.
Mais complètement, complètement.
Elle me parle de cette société patriarcale qui a entretenu aussi tout ça, et quand soudain... Ça va, c'est le patriarcat qui s'embrouille.
On bat toujours les coqs, hein, ils sont là.
Le matrimoine culturel. Citez-moi des noms de grandes femmes dans l'histoire.
Simone de Beauvoir... Il y a Margaret Mead en anthropologie, enfin, il y a plein de grandes femmes. Ben après, ça, c'est des femmes historiques, des grandes femmes aujourd'hui, il y en a plein aussi. J'espère que je vais en devenir une.
Et si ça ouvre désormais la perspective à la future doctorante d'avoir l'ambition de devenir un jour une grande femme, c'est que le matrimoine a de beaux jours devant lui.
Caroline Le Cire, Alexandra Huguetto sont toujours avec nous dans Zoom Zoom Zen. On a entendu ces témoignages, ces réactions à notre mot du jour, matrimoine. Cette étudiante qui dit qu'elle veut aussi devenir une grande femme de son époque, ça c'est quand même un signe que les temps changent enfin, non ? C'est le fait d'avoir intégré le fait que, ben oui, elles peuvent tout à fait être une grande femme comme il y a des grands hommes.
Ça c'est super, Alexandra. C'est vraiment important pour nous, c'est aussi à la source de notre aventure Donne-moi des ailes, de pouvoir, parce qu'on offre des modèles de représentation et d'identification, permettre aussi à des jeunes femmes ou à des jeunes filles de se dire, mais moi aussi je peux. Mmh. Et Sophie Adenau, qui est la française qui a été choisie pour aller dans l'espace, l'Agence européenne aérospatiale, elle disait que elle espère devenir en fait un support de représentation parce que elle-même, s'il n'y avait pas eu Claudie Aigneret avant elle, elle ne serait pas lancée.
Isabelle pense directement au matrimoine financier immobilier qu'on va transmettre. C'est vrai que c'est aussi une nouvelle forme d'héritage que vont transmettre les femmes. Je sais pas si, moi dans mon entourage, c'est ce qui va se passer. Par exemple, ma mère va devenir la première femme de ma famille à transmettre ou à léguer un héritage.
C'est sûr que pendant longtemps, en fait, les femmes, elles étaient tout à fait écartées de manière légale ou même de manière coutumière. On entend encore parler de les femmes qui reçoivent les bijoux et les hommes qui vont recevoir. Ouais. Et donc ça, effectivement, je pense que ça commence à changer, surtout que les femmes s'affirment. Hein, comme on disait, depuis que les femmes travaillent, les femmes, elles ont toujours travaillé. C'est juste la question des droits, en fait. Donc... C'est ça qui change, c'est les manières de se protéger.
On se balade à Paris, on voit des noms de rues qui portent des noms masculins. J'ai demandé à la mairie de Paris, c'est 14% de dénominations féminines. C'est quand même pas énorme. Pour vous, il faut féminiser les noms de rues, c'est important ?
Oui, c'est hyper important. Il faut féminiser, au fait, tous les noms des écoles, les noms de tous les espaces publics, les statuts, changer aussi ces vieilles statuts. Il y a une doctorante en Sciences Po, Christelle Snitzer, qui a recensé sur les 350 statuts, je pense, 37 statuts de femmes, quand on parle de personnages illustres. Et pour la petite anecdote, souvent, les hommes illustres, ils sont avec des femmes qui posent à leur côté sous forme de muses. Au travail, bien sûr, les femmes illustres, elles ne sont pas du tout en train de faire leur travail.
Oui. Et pour revenir à la stat de Paris, elle est récente. Parce qu'en 2014, il y a eu une campagne qui a choisi de reféminiser certains noms de rue, qu'on en est à 14% aujourd'hui.
Oui,
on
avant,
en était à 6% en 2014.
On continue à parler matrimoine dans Zoom Zoom Zen avec nos invités Caroline Le Cire et Alexandra Huguetto. On va notamment évoquer, pour mieux l'affirmer, le fameux mythe de la femme empêchée, selon lequel le travail domestique et l'éducation des enfants auraient empêché les femmes d'être productives artistiquement. On verra que ça a longtemps été une excuse bien commode. Mais d'abord, deuxième pause musicale dans Zoom Zoom Zen avec cet artiste qui a osé s'attaquer à un sujet tabou, le salaire de Cyril Lacarrière. Voici Pomme, 1 million sur France Inter.
Cache bien ton jeu, je pourrais te faire mal. Reprends-toi un peu, pleurer c'est sale. Ça fait des yeux plus gros que la ville. C'est pas facile, non.
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël.
Un million, c'est aussi ce que peut remporter chaque jour le gagnant du Zoom Zoom Test. Ah, un million de bisous volants que je lui envoie.
Oh,
étonnamment, malgré l'enjeu, Manon et Quentin se démènent assez peu. Je sens que je vais devoir passer au bisou esquimaux. Jouons au Zoom Zoom Test. À la rencontre aujourd'hui des femmes qui ont marqué l'histoire. Ou en tout cas, qui aurait dû la marquer si l'histoire n'avait pas été aussi machiste que Cyril Lacarrière. Manon, Quentin, évoquons d'abord l'une des plus grandes musiciennes de l'histoire. Après Catherine Lara, bien sûr. Évidemment. Un indice, il faut trouver cette musicienne qui n'est donc pas Catherine Lara. J'en ai parlé hier à la toute fin de l'émission pour annoncer notre thème du jour. Et sur les 800 000 auditeurs qui nous écoutent chaque après-midi, 12 seulement ont compris ce que j'ai raconté, sachant que j'ai savonné sur à peu près chaque mot. On aurait dit un doux sasseur.
Oui.
Cette pianiste et compositrice de talent qu'on pourrait prendre pour une femme d'eux, c'est bien sûr...
Schumann.
Comment elle s'appelle? S'il vous plaît, vous l'insultez.
Hein? C'était la femme de Schumann. C'est horrible, hein, ce que je dis. Mais...
C'est loin d'être seulement la femme de Schumann, c'est tout, aucun point accordé. Clara Schumann. Clara Schumann, qui était donc effectivement...
Non, oui, c'est trop tard. Okay.
Clara Schumann, vous pouvez souffler, parce qu'ils ont besoin, ils ont besoin de beaucoup de souffle. qui était donc effectivement l'épouse de Robert Schumann et qui était, selon les critiques de l'époque, au moins, si ce n'est plus talentueuse que lui. Liszt parlera à son sujet d'une grande prêtresse de l'art. Paganini dira, elle a la vocation de l'art parce qu'elle en a le sentiment. Paganini, qui, notons-le, s'était abstenu de tout commentaire à la sortie de Caresse du désir, le single de Manon.
Oh là là.
C'est vraiment étonnant qu'il n'ait pas commenté ça. Ma question est la suivante. D'après vous, qui a le plus contribué au fait que Clara Schumann ne soit pas plus connue aujourd'hui ? Johannes Brahms, Adolf Hitler ou Clara Schumann elle-même ?
Elle-même,
ouais.
Excellente réponse de Quentin. Clara, elle-même, ou plutôt, dirons-nous, tous les clichés de l'époque qui avaient infusé dans l'esprit même de Clara, qui après la mort de son mari n'a plus jamais composé. Je cite, c'est assez édifiant, « Une femme ne doit pas prétendre composer, aucune encore a été capable de le faire. Pourquoi serais-je une exception? Il serait arrogant de croire cela. » Quant à Brahms, il a été un ami, un soutien au moment de la mort de Robert. D'aucuns disent même qu'ils auraient été en pré-couple. Attention, top, on part en Égypte. Ah oui, en Égypte. Nous sommes à Thèbes, en 3428 avant Clo-Clo. Une reine d'Égypte, ça s'est déjà vu. Mais une reine qui devient pharaon, en revanche, c'est une première. Un séisme politique et social, puisque dans ses papyrus, le scribe Ramsès la Carrière accole à la nouvelle plein de points d'exclamation rageurs. Il n'est pas content. D'après vous, qui était cette reine devenue pharaon? Celle dont le nom ressemblait à une MST ramenée en souvenir de Barcelone par Manon, Toutmosis? Ou celle dont le nom évoquait un éternuement de Cyril quand il a trop mangé chez Blériot, Hatshepsut?
Bébé
comme Blériot.
Alors, nos invités ont largement soufflé à Quentin et Manon, mais c'est Quentin qui a été plus prompt à répercuter, tel un joli perroquet, ce qu'on venait de lui dire. Oui, Hatshepsut, 5e souveraine de la 18e dynastie, grande bâtisseuse, grande diplomate à la tête de l'Empire égyptien pendant 22 ans, alors que les règles disaient que le pouvoir devait s'équilibrer entre féminin et masculin, elle a réussi malgré tout à garder le pouvoir toute seule. Comment? En faisant zigouiller ses ennemis? En ayant recours au 49-3? Ou en misant sur la fluidité de genre?
Ah, la C.
Bonne réponse
ah
de
ouais.
Et même sans
hyper
souffler,
ah ouais.
La fluidité de genre. Eh oui, la fluidité de genre, déjà écrivait dépité le scribe Ramsès la Carrière. Tout le génie d'Hatshepsut fut de s'affirmer comme fille de Ré, tout en portant les insignes du pouvoir masculin en tant que roi d'Égypte. Elle se fait représenter de manière masculine tout en gardant les attributs féminins. Le tour est joué, Quentin. Attention, si vous rigolez trop, vous allez perdre votre attention, on revient à l'ère moderne. À la rencontre de ce qui était à son époque inconcevable et qu'il est toujours dans la tête de Cyril, une femme journaliste. Et il y a pourtant une première différence fondamentale entre Cyril Lacarrière et Nelly Bly. Elle, on ne lui a jamais retiré sa carte de presse. Pionnière du journalisme d'investigation à la fin du 19e siècle aux États-Unis, pour quel exploit est-elle entrée dans les livres d'histoire? Elle a été la première femme à remporter le prix Pulitzer. Elle a été la première personne à faire le tour du monde aussi vite que Phileas Fogg dans Le Tour du Monde en 80 jours. Ou elle a été la première personne à faire le tour du monde plus vite que les héros du roman de Jules Verne.
B.
La C, plus
la
vite.
La P.
Quentin, c'est un triomphe.
Oh non.
Hélas, masculin.
Non.
Et oui, le tour du monde en 80 jours. Elle a mis 72 jours, 6 heures, 11 minutes, 14 secondes. Impressionné, Jules Verne demandera d'ailleurs à la rencontrer. Jules Verne, qui, notons-le, n'a en revanche jamais demandé à rencontrer Manon après cet exploit quotidien qui est pourtant la veille sanitaire. Oui. Victoire de Quentin, lui, mérité. Vous avez été aidé.
Oui. Merci à tous.
Caroline Lessire, Alexandra Huguetto, qui signe le podcast Donne-moi des ailes, sont nos invités cet après-midi pour comprendre pourquoi le patrimoine a si longtemps occulté le matrimoine, ce que l'histoire doit aux femmes. L'historienne Michèle Perrault a démonté ce qu'elle a appelé le mythe de la femme empêchée, c'est-à-dire que les manuels scolaires justifiaient l'absence de femmes importantes dans l'histoire parce qu'elles auraient été empêchées par le travail domestique et l'éducation des enfants. Ça, c'est totalement faux.
Ah oui, mais c'est faux. Mais dans une ampleur qu'on n'imagine même pas. Nous, on ne l'imaginait même pas. On pensait que c'était faux, mais on n'imaginait pas ce qu'on allait trouver.
Qu'est-ce que vous avez trouvé?
Par exemple, il y a une américaine, une collectionneuse d'art, Chris Pettace, qui, dans les années 70, a fait une étude pour partir en quête de toutes les femmes artistes en Europe. Avant 1900. Vous savez combien elle en a trouvé?
Je n'imagine même pas, un chiffre colossal.
21 000.
Ah oui.
Donc, quand on dit par milliers, c'est pas une façon de parler. Et on n'est pas à Marseille. Non, c'est en vrai. Il y en a des milliers, des milliers, des milliers.
Donc on parle en fait d'invisibilisation. On ne parle pas du fait qu'il n'y avait pas de femmes ou qu'elles étaient empêchées ou quoi que ce
Absolument.
Soit. C'est juste qu'on les a bien invisibilisées.
Est-ce que ça change dans les livres d'histoire? Est-ce que les écoliers apprennent autre chose aujourd'hui que les noms d'hommes?
Eh ben, hélas, non, pas du tout. Non, mais il y a vraiment ce centre qui s'appelle le centre Hubertine Auclair qui fait régulièrement des veilles et des études, des documents très intéressants. Et là, on a repris quelques stats. Franchement, c'est assez inquiétant, que ce soit en termes de femmes autrices qui sont citées, de femmes artistes. Par exemple, dans un manuel, les manuels de littérature pour la classe de seconde, c'est une étude de 2013, il y a seulement 3% qui sont des autrices, 6% d'artistes. Les femmes philosophes, il n'y a même pas 1%. Et alors, c'est tout domaine confondu. Donc là, on est dans la manuelle de littérature, mais même quand on prend les manuels de lecture pour le CP, les personnages sont extrêmement stéréotypés. Donc, par exemple, les personnages qui sont de l'ordre... ceux qui font les courses, c'est à 90% des femmes. Les petites filles, elles sont à la maison, elles font des activités calmes. Les petits garçons, ils font du sport à l'extérieur. Donc, et là, on parle d'une étude de 2015. Donc,
Enfin, ah voilà. Oui, 2015, c'est quand même assez âgé.
J'allais vous dire,
je suis choqué, mais 2015, c'est proche de nous. Est-ce que ça change pas quand même Est-ce qu'on peut pas être un peu optimiste? Parce que moi, j'ai l'impression, dans les livres des tout-petits, pour les enfants en bas âge, j'ai l'impression qu'on voit plus trop les stéréotypes à la con d'avant, genre avec la maman en cuisine. Et là, maintenant, c'est même dans Trop-Trop, je crois, c'est le papa qui fait la cuisine et la maman qui tape sur l'ordinateur. Enfin, ils font parfois des efforts.
Il y a plein de choses qui changent, mais c'est vrai que dans les manuels scolaires, etc., il y a sans doute aussi, ça prend du temps, c'est l'académie.
Oui, c'est ça, il faut du temps pour changer ça, les manuels scolaires. Quentin ?
Ben non, mais c'était la question que j'avais sur le manuel scolaire. Parce comment on change
comme ça sur non, non, mais sur
comment on change quelque chose si on n'a pas les noms dans le livre scolaire? C'est juste ça, les nouvelles générations vont avoir besoin de ça.
Alors concrètement, pour retrouver des œuvres réalisées par des femmes, il y a parfois plusieurs centaines d'années maintenant, comment on fait ce travail d'investigation? C'est-à-dire que la mémoire, ça s'entretient. Si on doit repêcher quelque chose qui n'a pas été entretenu à l'époque, ça relève, j'imagine, du casse-tête. Il est là, le problème, aussi.
Alors, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que cette quête, cette recherche, elle ne date pas d'hier. Vous citiez Michèle Perrault, qui a été une des précurseuses. Elles étaient plusieurs dans les années 60, mais même avant elle. Donc, elle vient de sortir un ouvrage très intéressant. Elle explique qu'elle-même, elle a été guidée par d'autres personnes. Donc, il faut dire que là, on est en 2023. Ça fait plus de 70 ans, en fait, qu'il y a des femmes qui vont chercher, des femmes et des hommes, mais quand même essentiellement des femmes, qui vont chercher, qui vont débusquer, en fait, ces biais de genre dans toutes les disciplines, l'histoire principalement, la sociologie, l'histoire, la philosophie, etc. Donc il faut savoir que ça, c'est une manière de raconter l'histoire autrement, puisque les hommes étant majoritaires dans ces disciplines, c'était le reflet de ce qu'on leur apprenait. Ils étaient que entre eux, ils ne s'adressaient que à des hommes. Donc voilà, maintenant les femmes sont de plus en plus nombreuses, les ouvrages sont traduits, parce que voilà, là on parle d'Europe, mais il y a vraiment dans d'autres pans du monde, notamment aux États-Unis, il y a eu vraiment toute une littérature et des essais passionnants qui arrivent, mais avec 20 ans, 30 ans de retard. Donc là, c'est en train de changer, mais c'est vraiment une autre manière de se relier à l'histoire, au fond. Raconter la même chose.
J'ai quand même l'impression que la littérature, c'est l'un des domaines qui est le moins invisibilisé, entre guillemets, pour les femmes. Quels sont les domaines où elles le sont le plus, s'il y en a?
Alors, on a regardé, il n'y en a pas tant que ça. En tout cas, dans les domaines artistiques, il y en a très peu. Mais on est allé voir dans les métiers. Alors, c'est vrai que les métiers du care et les ressources humaines, les femmes là sont très représentées. Mmh. Les sources de l'APEC nous montrent qu'elles sont à peu près 80% de personnes qui travaillent, qui sont les personnes qui travaillent dans ces secteurs. Après, ce qui est intéressant, c'est quand on fait le focus sur le type de fonction qu'elles occupent. Et là, tout secteur confondu, on voit que les femmes représentent en France, sources d'APEC, toujours 40% des cadres. Mais que dans ces 40% de cadres, il n'y en a que 33% d'entre elles qui occupent des fonctions hiérarchiques. Donc, c'est dans toutes les sphères de la société que les femmes sont sous-représentées, à quelques exceptions près.
Vous écoutez France Inter, il est 16h46. Dans quelques instants, de l'autre côté du poste, Jocelyne Tranier tendra l'oreille. Elle qui écrit tous les textes de son mari depuis 5 ans et n'a jamais été payée. Alors sur Nova, c'était normal, même Benjamin n'était pas payé. Mais sur le service public quand même. Bref, Benjamin Tranier arrive. Mais d'abord, Manon, je suis en manque de finesse. Heureusement, vous êtes là, prête à nous disséquer avec Maestria l'actu des réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous êtes intéressée à des hashtags qui sont beaucoup plus importants qu'ils n'en ont l'air.
Save First Kill, Save Warrior Nun, Save Uncoupled. Voilà des hashtags qu'on le retrouve en masse sous chaque tweet de Netflix, des milliers de personnes qui demandent à la plateforme de sauver leur série préférée. Séries qui ont été annulées par la plateforme et qui ont tout un point commun, elles mettent en scène des romances LGBTQIA+. First Kill est une série qui suit l'histoire de deux vampires lesbiennes, Warrior Nun met aussi en scène une histoire d'amour entre deux femmes, et un couple suit un gay cinquantenaire fraîchement divorcé à New York. Pour les fans, il n'y a donc pas de doute, Netflix aurait un problème avec les séries LGBTQIA+. L'excuse de la plateforme quand elle annule une de ses productions, c'est de dire que les audiences ne sont pas bonnes. Sauf que ces séries ont toujours été des programmes très prisés par les utilisateurs. Quand elles sortent, elles sont par exemple toujours dans le top 10 des séries les plus vues. Sur le site spécialisé Rotten Tomatoes, Warrior Nun a même une 99% d'avis positifs sur 4500 avis. Un score énorme pour une série qui n'a pas l'envergure d'un Game of Thrones.
Mais alors donc Netflix a dû se justifier de ces annulations?
Oui, le boss de la plateforme, Ted Sarandos, a déclaré qu'il n'a jamais annulé une série qui marche et que ces séries coûtent trop cher par rapport à leurs audiences. Alors, on peut leur laisser le bénéfice du doute, surtout que Netflix communique très peu sur ses audiences. Mais la plateforme a quand même déjà dû faire machine arrière après une mobilisation sur les réseaux sociaux. Elle concernait la série Sense8 des sœurs Wachowski, réalisatrices de la saga Matrix. La série a eu deux saisons qui ont été des gros succès critiques, notamment pour sa représentation de la communauté LGBTQIA+. À juste titre, Sense8 a été l'une des premières séries diffusées diffusée sur une plateforme grand public qui cassait les codes des genres et des sexualités en mettant en scène des personnages gays, bi et trans. Sauf qu'en 2017, stupeur du côté des fans, la série est annulée par Netflix.
Pareil, à cause de l'audience ?
Oui, et du coup, excessif, c'était la raison donnée par Netflix. Mais c'était sans compter sur les fans. Ils ont même mené une campagne sur Twitter pour réclamer le retour de Sense8 et avoir une fin digne de ce nom. Netflix a donc été contrainte de céder en offrant un double épisode spécial pour conclure la série. Mais toutes ces annulations interrogent, car elles arrivent dans un contexte bien particulier. L'association américaine GLAAD vient de publier son rapport annuel sur les discriminations envers la communauté LGBTQIA+, dans les médias. Et c'est vraiment pas fameux. Cette année, un chiffre retient particulièrement l'attention. Il ne concerne évidemment pas que Netflix. 140 personnages LGBTQIA+, vont disparaître suite aux annulations de certaines séries, que ce soit à la télé, sur le câble ou sur les plateformes de streaming. Alors évidemment, c'est un chiffre qui comprend aussi des séries qui se finissent après des années, comme The Walking Dead, ou évidemment des séries qui n'ont vraiment pas attiré d'audience, comme le reboot de Gossip Girl.
Mais selon vous, c'est quand même un chiffre qui doit nous alerter.
Oui, car ces dernières années, les représentations de genre et de sexualité dans les fictions étaient en hausse. Et il ne faudrait pas que ça change, qu'il y ait un backlash, un retour en arrière. Car forcément, ces représentations ne plaisent pas à tout le monde. Elles sont même victimes d'homophobie sur les réseaux. On l'a vu dernièrement avec la série de HBO The Last of Us, je vous en avais parlé ici. Mais les chaînes et les plateformes ne doivent pas céder face à ces critiques. Au contraire, elles doivent écouter leurs utilisateurs car elles ont un vrai rôle à jouer aujourd'hui. Ces hashtags ne sont pas de simples plaintes de la part de fans frustrés, mais de vraies revendications qu'il faut prendre au sérieux.
Merci beaucoup Manon Mariani. Et certaines revendications, hélas, ne sont jamais prises au sérieux, comme par exemple celle de notre rédac chef Cyril qui avait revendiqué des places pour le concert parisien de Kendrick Lamar. Ça va pas être possible. On a des places pour Réciproque, si vous voulez, lui avait-on répondu. Depuis, blessé dans son orgueil, il boycotte le célèbre rappeur, mais pas nous. Voici Mirror, Kendrick Lamar sur Inter.
The pressure's taking over me, it's beginning to loom. Better if I spare your feelings and tell you the truth. Lately I redirected my point of view. You won't grow waiting on me. In the morning for the daily news, I was so low mourning through the family feuds. Baby, I told your story and laid down all the rules. Still, you won't grow away no me. I choose me, I'm sorry. 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 All of it's toxic. Girl, I'm not relevant to giving them profit. Personal gain of my pain is nonsense. Darling, my demons is off the leash for a mosh pit. Baby, I just had a baby, you know she need me. Working on myself and counseling is not easy. Don't you point a finger, just to point a finger, cause critical thinking is a deal breaker. Faith in one man is a ship sinking. Do yourself a favor and get a mirror that mirror grievance. Then point it at me so the reflection can mirror freedom. She told me that she need me the most, I didn't believe her. She even called me names on a post, the world can see it, jokes and gaslighting. Mad at me cause she didn't get my vote. She say I'm trifling, disregarding the way that I cope with my own vices. Maybe it's time to break it off, run away from the culture to follow my heart. I realize true love's not saving face, but unconditional. Where will you let me go? I trust you finding the peace.
Zoom Zen sur France Inter.
Longtemps, le patrimoine a totalement occulté le matrimoine, ce que l'histoire doit aux femmes. Heureusement, les temps changent. Ils changent si vite que le maire de la ville de Mourou, Romain de Montaga, est avec nous et qui nous raconte justement la journée du matrimoine qu'il organise à Mourou avec pour ambition de mettre la lumière sur les grandes figures féminines de la ville. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de France Inter, mes très chères électrices, même les moins chevelues, mes très chers électeurs, ceux qui prennent des douches avant de se faire sessu, car être un gentleman ne coûte pas un centime. Bonjour à vous, monsieur Mathieu Noël, bonjour. Aïe aïe aïe, prête à tienne à tout instant. Le slip est en velcro, oui monsieur. Foutu fornicateur, va.
Sans prix, monsieur le maire.
Eh, le daron à Kader, il a un OnlyFans, il n'y a que des photos de ses gros orteils velus. Si je suis ici devant vous, monsieur Mathieu Noël, c'est parce que la mairie de Mourou a décidé d'organiser un parcours dans le cadre de la journée du matrimoine qui aura lieu le 11 septembre 2024. Non, non, je ne fais pas ça pour emmerder le daron et le cadère, voilà. Quoi qu'en disent les suceurs. Je le fais par respect, pour mettre du respect, pardon, sur toutes les bad girls de l'histoire de la ville de Mourou. Voilà. Et madame Verrier et madame Goulier, c'est elle qui a poucave pour le pipi dans les fleurs de la mairie. La journée du matrimoine commencera donc à 11h30, soit une heure après le premier café calva du daron à Kader, et ce, en plein ramadan. Cela ne regarde que lui, je ne fais que donner les infos. Je disais donc, 11h30, rendez-vous sur la Grand Place pour l'inauguration de la statue de Laure Pétiquian, qui, en 2003, devient la première femme à avoir réussi à mettre KO un âne en lui collant une patate main nue. Devant témoins, voilà. Lors de cette journée, les femmes de Mourou perpétue la tradition en collant une patate à un âne. Cependant, suite aux attaques des assauts de défense des animaux, voilà, les ânes sont maintenant joués par des personnes âgées et des enfants difficiles. Les chaos sont plus récurrents, la tradition reste intacte. Merci au dojo Jérémy Ferrari-San de plus entraîner les participantes. On manque de lits aux urgences. 13h30, visite du stade Charline Brousset, catcheuse internationale plus connue sous le nom de Clito the Giant ou encore Foon Fury, et également originaire de Mourou. Il y aura donc un ring de catch avec atelier pratique. Le coup de la corde à linge sera évidemment interdit pour éviter toute mauvaise blague misogyne. Voilà. Et si on attrape le fou qui s'amuse à nettoyer les graffitis sur la mairie, on va lui mordre les doigts. Voilà. 17h30, hommage à Matou Marsiglo, la première femme chef étoilée originaire de Tu sais où, Poutou. Au sein de la mairie, il y aura donc une dégustation de sa légendaire joue de bœuf. Même si, oui, cette chef a fini en prison pour le meurtre en série de plusieurs enfants orphelins. Ce qui nous a permis de nous rendre compte que la joue de bœuf, c'était pas du bœuf. Bon. Très cher suceur, j'espère que ces festivités seront excusées. La bourde de l'an dernier où, sur ordre du ministre de l'Intérieur et pour rendre hommage aux femmes, nous avons organisé un grand lavé de slip dans l'ancien lavoir de la ville, où le daron à Kader a fini bon dernier. Qui l'eût cru ? Guette la taille du slip aussi. Qui a donc hissé la grand voix ? Merci de m'avoir écouté et à bientôt, cher suceur.
Merci beaucoup, Benjamin Tradi. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Comme quoi, il y a pire que ma chronique sur Europe. Voilà. Caroline Le Cire, Alexandra Guito, merci d'avoir mis le projecteur sur ce mot matrimoine. Je rappelle que vous êtes les co-autrices du livre Donne-moi des ailes aux éditions Jouvence et que Donne-moi des ailes est aussi un podcast que vous présentez toutes les deux. Est-ce qu'on peut donner d'autres petites recommandations ? On m'a dit beaucoup de bien du podcast Vénus s'épilait-elle la chatte. C'est dans la même veine, ça ?
Ouais, c'est super intéressant. Ouais, c'est vraiment centré sur l'histoire de l'art, super.
Ouais, ouais. Ouais.
Merci à toutes les deux. Merci à tous. Est-ce qu'on a encore le temps pour
une
question ?
On a largement le temps, Mathieu.
On a amplement le temps. Oui, oui. Eh bien, si t'es si malin, pose-en une.
Mais moi, j'en ai une. J'ai toujours une question.
Le feu follet est toujours
réactif. Est-ce qu'il est dans le dictionnaire, ce mot, matrimoine, puisqu'il est tombé dans la désuétude ?
Non.
Ah, il n'est pas dans le dictionnaire.
Non.
Aujourd'hui, on ouvre un Larousse, c'est pas dedans.
Et d'ailleurs, quand on travaillait sur l'émission et qu'on tape matrimoine dans Word ou dans Google, il ne reconnaît pas le mot. Il y a quand même beaucoup de mots qui sont encore comme ça. C'est pareil pour influenceur, influenceuse.
Ça nous a fait rager quand on a écrit le livre. On a vraiment ragé tellement contre le correcteur d'orthographe.
Ah bah ouais.
Sachant qu'en plus, c'est un mot qui a existé, il est donc logique qu'on se batte pour qu'il l'intègre le dictionnaire. Ça fera avancer le débat plus facilement. Merci encore à toutes les deux. Merci à tous les amis. amis. Merci Manon beaucoup. Mariani, merci. Quentin Lui, Cyril Lacarrière et surtout Irène Verlac de Télérama pour les citer. Rien ne serait possible sans Étienne Bertin à la réalisation, Mathieu Bérény à la technique. Demain, un thème qui risque de créer un schisme dans la haute direction de Zoom Zoom Zen, haute direction qui se résume à Cyril et moi,
pour
contre le vin nature.
Non.
Merci Cyril, on essaiera de nuancer un peu le propos, mais c'est l'idée. En attendant, restez bien sur Inter, on file à Saint-Denis, retrouver Charline et toute sa bande.